Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 25 août, une panne géante hier sur les lignes B et D du métro. Le conducteur de l'ambulance ayant percuté mortellement deux adolescents à trottinette, quai Maréchal Joffre, a été mis en examen. Une campagne de vaccination sans précédent s'ouvre en région Auvergne-Rhône-Alpes après l'émergence d'un variant de méningocoque B. La marche de solidarité pour l'Ukraine, organisée hier soir, 6 mois après le début de la guerre, une centaine de personnes ont défilé à Lyon. L'événementiel cherche à réduire son impact environnemental, pour preuve le festival Woodstower, qui va encore plus loin cette année, en utilisant un groupe électrogène zéro émission de CO2. Explications et reportages dans cette édition. Et puis nous parlerons, à la fin de ce quart d'heure lyonnais, des 25 ans du Ninkasi.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les lignes de métro B et D ne circulaient plus hier soir en raison d'une panne électrique géante. La ligne D ne desservait plus les stations Valmy et Gardevèze. Mais pour la ligne B, c'est la totalité de la ligne qui était à l'arrêt, entre Charpennes et Gardoulin. La reprise totale était prévue ce matin dès l'ouverture des deux lignes. Il est toutefois prudent de se renseigner sur le site ou les applications TCL. Le conducteur de l'ambulance ayant percuté mortellement deux adolescents à trottinette lundi, quai Maréchal Joffre, a été mis en examen pour homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement. Il est placé sous contrôle judiciaire, avec en particulier l'interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur. Le parquet avait demandé que l'ambulancier soit incarcéré du fait de la gravité de l'accident. Ce Lyonnais de 36 ans n'avait plus que 2 points sur 8 sur son permis de conduire probatoire. Il avait commis dans le passé près d'une trentaine d'infractions au code de la route, réprimées par des amendes forfaitaires ou des pertes de points. Il avait vu son permis de conduire suspendu. Le dépistage d'alcoolémie pratiqué le soir de l'accident s'est avéré négatif. Les investigations se poursuivent maintenant sur commission rogatoire afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. Les deux adolescents, une fille de 15 ans et un garçon de 17 ans, avaient été fauchés alors qu'ils circulaient quai Maréchal Joffre sur la voie réservée aux bus et aux deux roues non immatriculées. L'ambulance missionnée par le SAMU avait aussi l'autorisation d'y circuler pour faire respecter la zone 30. L'installation de radars figure parmi les sujets de discussion avec la préfecture. Une réunion doit être organisée prochainement. La suppression d'une des voies de circulation est aussi envisagée sur les quais très circulants, Tilsit et Maréchal Joffre.
Lyon Demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
Une campagne de vaccination sans précédent vient de s'ouvrir en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle vise tout particulièrement les jeunes de 16 à 24 ans, mais aussi les enfants de 0 à 2 ans. À la suite de l'émergence d'un variant de méningocoque B qui a infecté une douzaine de personnes en quelques mois et provoqué un décès, 56 000 personnes, adolescents, jeunes adultes et jeunes parents, ont reçu ou vont recevoir dans les prochains jours un courrier de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes les incitant à se rapprocher de leur médecin traitant pour se faire vacciner contre le méningocoque B. Ces personnes résident dans les secteurs de Chambéry et de l'Est lyonnais, là où les cas ont été détectés. Fièvre, maux de tête importants, souvent accompagnés de vomissements, sont les principaux symptômes d'une infection invasive à méningocoque. La prévention passe essentiellement par la vaccination chez les sujets à risque et dans les situations spécifiques, cas groupés ou épidémiques, soit la situation actuelle rencontrée en région Auvergne-Rhône-Alpes. Une marche de solidarité pour l'Ukraine était organisée hier soir, 6 mois après le début de la guerre. Le cortège est parti de l'hôtel de ville de Lyon et a rassemblé une centaine de personnes. Des chants, des pancartes et des prises de parole ont rythmé le parcours. Si le 24 août célèbre l'indépendance du pays de l'ex-URSS, cette date marque également les 6 mois de l'invasion russe. Selon les derniers chiffres du Haut Commissariat aux droits de l'homme, le conflit a fait plus de 13 000 victimes civiles, dont 5 587 d'entre elles ont été tuées. En France, plus de 96 000 réfugiés ont été enregistrés et environ 2 000 pour la seule région lyonnaise.
Lyon Demain, média agitateur d'idées.
L'événementiel cherche à réduire son impact environnemental. Il y a quelques années encore, un festival générait du bruit, des déchets, des déplacements en voiture. Mais des efforts ont été constatés ces dernières années avec par exemple l'installation de bacs de tri pour récupérer des gobelets en plastique, les canettes et autres détritus. Pour son édition 2022, Woodstower est allé encore plus loin en utilisant un groupe électrogène zéro émission de CO2. Petite visite guidée dans ce bolide bleu avec l'une Ludovic Fenouillat, responsable d'équipe chez Enedis.
En fait, c'est une grosse batterie, hein, comme on peut avoir sur un téléphone, mais vous le multipliez par des centaines et des centaines de fois. Donc ça nous fait une capacité d'énergie en courant continu. Ce courant continu, on va le transformer et on va le redresser pour en faire une énergie alternative avec un transformateur qui va le mettre à une tension secondaire qui nous permet de le diffuser, on va dire, sur le réseau de distribution publique au seuil de la basse tension, hein, c'est-à-dire 230-400 volts. Ce groupe-là a la capacité de pouvoir se coupler au réseau, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des travaux sans coupure de courant chez les clients, c'est-à-dire qu'on va se substituer à l'énergie par les transformateurs du réseau de distribution classique et on va reprendre toute la charge en fait, du réseau basse tension sur le groupe qui nous permettra en amont de couper par exemple un transformateur et de le muter sans impact client visible.
Pour cette première nationale, le festival a choisi de tester ce groupe zéro émission sur la petite scène installée sous chapiteau. Le générateur à énergie fossile est remplacé par des batteries au lithium. Élise Cabrol, directrice territoriale Enedis.
Ce groupe électrogène zéro émission fonctionne sur batterie et donc va permettre d'alimenter du point de vue électrique la scène qui se trouve sous le chapiteau. Ce groupe électrogène a les mêmes fonctionnalités qu'un groupe électrogène fuel auquel font souvent appel les organisateurs de festivals, mais il apporte des avantages clairs et notables, hein, vous pouvez le percevoir. Déjà zéro émission de CO2 direct, voilà, une réduction significative des nuisances sonores, des nuisances olfactives et aussi des vibrations. Voilà, donc c'est véritablement une avancée en faveur de la réduction de l'impact carbone, mais aussi pour les riverains et les participants à ce festival.
Alors vous avez dit zéro émission directe, ça veut dire qu'il faut quand même le recharger à un moment.
Alors zéro émission directe parce que je dirais c'est en fonctionnement qu'il ne produit pas de CO2. Au niveau de la recharge de la batterie, elle se fait au niveau du poste de distribution qui se trouve à 1 km à partir du réseau électrique. Voilà, donc je dirais la recharge fait appel à de l'électricité produite classiquement en France où on le sait, le mix énergétique est globalement plutôt décarboné. Quand on parle d'émissions zéro CO2 direct, c'est que nous n'intégrons pas pour l'heure dans la mesure le fait d'avoir produit et d'avoir à terme à recycler les batteries.
Et quel usage on peut en faire de ce groupe électrogène ?
Alors pour Enedis, les usages sont ceux des groupes électrogènes fuel classiques de la flotte nationale. On les utilise globalement dans deux cas d'usage. Le premier cas d'usage, c'est quand Enedis a réalisé des travaux sur le réseau de distribution électricité qui nécessite de couper l'alimentation électrique des clients en provenance du réseau. Et nous maintenons cette alimentation électrique à travers l'usage de groupes électrogènes qui fonctionnent sur fuel. Voilà. Donc ça, c'est le premier usage. Le deuxième usage, c'est le fait de pouvoir installer des groupes électrogènes, notamment lors des aléas climatiques, en urgence pour rétablir l'alimentation électrique des clients.
C'est un bon laboratoire, ce festival Woodstower, pour tester ce genre d'équipement ?
Alors effectivement, c'est un très beau laboratoire, déjà parce que ça permet de tester une technologie novatrice et ça permet également de pouvoir apporter des plus-values au-delà de celles qu'on a pu lister sur le confort que ça génère à travers le partage des données de consommation et de puissance utilisées à l'occasion du festival aux organisateurs.
Woodstower figure dans le top 5 des éco-festivals en France et l'association qui en assure la gestion n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. L'édition 2022 s'est inscrite pleinement dans le plan climat de la métropole de Lyon, plan qui vise notamment à réduire les énergies fossiles et les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons rencontré Maxime Nolly, le directeur du festival Woodstower.
Alors les principales actions sont vraiment 360. On aborde et le volet environnemental, et le volet économique et le volet social. Sur le volet environnemental, il y aura tout autour des déchets, le tri, revalorisation des déchets. Cette année, suppression sur les bars des bouteilles en plastique, des bouteilles de soda, tout en tireuse. Donc vraiment un gros effort pour limiter les déchets au maximum. Un volet sur l'eau. On a 100% de toilettes sèches. On ne consomme pas d'eau sur nos toilettes. On a un volet autour des transports doux, avec avec le Citral, Vélov, pour faciliter les desserts du Grand Parc en transport doux. Sur l'alimentation, on travaille avec un cahier des charges pour nos snacks 100% bio et local, pour voilà, limiter aussi l'impact au niveau alimentaire et que chaque snack ait une offre végétarienne. On travaille aussi du point de vue énergétique, on l'a vu, et c'est une grosse avancée puisque ce groupe électrogène solutionne beaucoup de questionnements qu'on avait nous jusqu'à présent. On a aussi des choses d'appoint en solaire, mais qui sont pour l'instant vraiment d'appoint. Et sur le volet plutôt social, on travaille sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap. On a des plateformes PMR, des gilets vibrants pour les personnes malentendantes, des plaques de roulement au sol pour les personnes en fauteuil, des barres qui sont en langue des signes aussi pour les personnes malentendantes. On a une gratuité cette année pour les personnes en situation de handicap, donc voilà, un gros effort fait pour ce public-là. Et sur le volet inclusion, on travaille avec des chantiers d'insertion, des associations de réfugiés pour amener dans nos équipes bénévoles des personnes qui ont besoin aussi de participer à des grands rassemblements comme ça et s'insérer professionnellement et socialement.
Cette question de l'énergie, là, c'est une question cruciale pour un organisateur d'événements.
C'est une question qui est surtout très difficile à manœuvrer seul, parce que c'est des gros investissements, c'est des technologies que nous, en tant qu'acteurs associatifs de l'événementiel, on ne peut pas faire évoluer ou maîtriser seul. Donc on est obligé de s'associer avec des partenaires qui maîtrisent et qui ont envie de se tester aussi sur des choses comme ça. Nous, notre problématique, on est sur un site qui n'est pas raccordé au réseau électrique en dur, en filaire. Donc on fait appel à des groupes électrogènes, donc c'est une solution, mais elle est très polluante en émissions carbone. Et donc ce qu'on recherche, nous, c'est d'être le plus neutre possible de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, les technologies qui existent, elles ne sont pas capacitaires pour alimenter des scènes. Donc on a essayé du solaire, des choses plus modestes. Et là, cette expérimentation avec Enedis, on espère, va pouvoir faire franchir une étape au festival et puis à d'autres organisateurs, parce que c'est vraiment l'idée.
Enedis souhaite remplacer progressivement ses groupes électrogènes diesel par des groupes électrogènes propres, et ce d'ici 2030. Mais cette expérimentation vise aussi à faire évoluer plus globalement les modes de production d'énergie. Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président de la métropole et président de l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat.
Ces groupes électrogènes, à la base, sont plutôt dédiés à venir s'installer sur des zones de travaux où il y a eu une coupure de courant et il faut fournir une alimentation en électricité pour les usages, primordiaux de la vie courante. Ce n'est pas des dispositifs qui sont prévus pour des festivals, pour des événements culturels. Non, l'idée pour la culture, c'est de faire des événements là où est le réseau électrique, haute tension ou moyenne tension. Et du coup, l'enjeu pour Enedis, voire pour RTE, c'est de développer le réseau jusque dans des endroits où actuellement on devait utiliser des groupes électrogènes au diesel. Et c'est là où il y a une coopération qui se fait bien. Nous, à la métropole de Lyon, on travaille vraiment bien depuis 2 ans avec Enedis pour être un peu rationnel et pragmatique. C'est-à-dire que quand il faut faire des expérimentations comme ça, pour aussi prouver que ça marche et montrer que ça marche, on le fait. Mais on va aussi être exigeant auprès d'eux pour avoir un réseau qui est renouvelé régulièrement. On a eu beaucoup de coupures de courant cet été à cause de la canicule. Enedis est très impliqué dans le renouvellement de ces réseaux. On veut que ça aille encore plus vite pour éviter les coupures de courant. Là où habitent les gens, c'est essentiel. Et les événements comme celui-là, c'est essentiel aussi de tester des choses. Mais la priorité, c'est là où vivent les gens quand même.
La prochaine étape pourrait être le raccordement au réseau du terrain qui accueille le festival. Woodstower est un événement pérenne, présent chaque année à Miribel-Jonage, et ce depuis 17 ans. Du 25 août à partir d'aujourd'hui donc, et jusqu'au 28 septembre, près de 40 événements, 45 artistes, 25 heures d'open air sont prévues pour fêter les 25 ans du Ninkasi. Rendez-vous dans tous les Ninkasi de Lyon et pas seulement à Gerland, le seul établissement bien sûr à pouvoir se targuer d'avoir 25 ans. Le festival débutera par un grand blind test lundi 5 septembre dans tous les établissements Ninkasi à partir de 20h30. Il s'achèvera sur le concert de Human Pattern et les Subs. Ce sera le 28 septembre à 20h. Des artistes lyonnais comme Blue Orchid ou Eddie Woogie, mais aussi des musiciens internationaux tels que DJ Crush ou encore Night Beats. Le 5 octobre prochain, un nouveau bar Ninkasi va voir le jour, 6 rue Simone Veil, dans le quartier Grand Paris, à Vénissieux. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même heure, mêmes antennes, pour la dernière édition de la semaine.